Mondial Sport sur RFI. Christophe Jousset.
Bonsoir, bienvenue dans Mondial Sport. Ce sera un dimanche à suspense dans la finale de la Coupe Davis. L'équipe de France de tennis a gagné le double. Elle n'est plus menée que 2-1 par la Croatie. Dans un instant, Eric Mamrut nous raconte cette chaude après-midi lilloise. Grande page football à suivre. Pierre Chaperon en direct sur le choc de la Liga. L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone à 5 minutes de la fin. L'Atlético mène 1-0. Avec Tom Williams, nous reviendrons notamment sur Tottenham-Chelsea, le sommet du week-end en Angleterre. Première défaite en 13 journées pour les Blues, battus 3-1. Chelsea dépassé par Tottenham au classement. Et puis, nous gardons un œil sur Buenos Aires. River Boca, finale retour de la Copa Libertadores. Finale repoussée en raison d'incidents d'avant-match. Le quart de Boca a été caillassé, des vitres cassées. Les joueurs ont été incommodés par des gaz lacrymogènes. Le coup d'envoi, déjà repoussé une première fois, est annoncé maintenant à 23h15, heure française, 22h15, temps universel. Le foot en Afrique, bien sûr, veille de la finale aller de la Coupe de la Confédération entre le Raja et V-Club. Éric Chorin nous présentera ce duel maroco-congolais. Et Olivier Pron nous appellera du Ghana, où le premier tour de la CAN féminine s'est achevé aujourd'hui. Les demi-finales sont affichées, Cameroun, Nigeria et Afrique du Sud, Mali. L'actualité sportive est riche et aussi rugbystique. Le 15 de France joue contre les Fidji au Stade de France. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Christophe.
Alors les Français sont sortis de la spirale de la défaite la semaine dernière en dominant l'Argentine. Est-ce que ce mieux se confirme Cédric?
Et pas vraiment Christophe. 15 à 14 pour l'instant pour les Fidji qui mènent donc au score à la surprise générale. Et mais honnêtement c'est mérité hein, sur ce qu'on voit depuis le début de ce match. Beaucoup trop d'erreurs côté français. Et puis cette impression de fébrilité alors qu'à l'instant eh bien 18 à 14 puisque Ben Volavola, l'ouvreur fidjien, vient d'inscrire une pénalité en face des poteaux. Les Fidjiens qui ont profité hein, de cette fébrilité française en inscrivant notamment deux essais de Radradra et de Tuisova à l'énergie. Le 15 de France est revenu par deux fois grâce à Guilhem Guirado. Mais vraiment, on ne voit pas vraiment là comment le 15 de France peut inverser cette tendance. Ce 15 de France bien trop fébrile pour l'instant. Il lui reste un peu plus de 20 minutes pour revenir au score.
Eh bien, on vous met en attente, Cédric, et on vous retrouve dans quelques minutes. C'est Mondial Sport, préparé avec Mathias Taylor et Laurent Philippot, le tour de l'actualité sportive en une demi-heure. Mais d'abord, cette finale de Coupe Davis et l'espoir qui renaît dans le camp français. Les Bleus étaient menés 2-0 à l'issue d'un vendredi noir sans le moindre set gagné, ni le moindre break empoché. Eh bien, les Bleus ont réagi ce samedi à Villeneuve-d'Ascq. Victoire dans le double grâce à Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, vainqueurs en quatre manches du duo Ivan Dodic et Mate Pavic. C'était sous les yeux d'Éric Mamrut que l'on retrouve au stade Pierre Mauroy. Bonsoir Éric.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Alors, victoire sans conteste pour Mahut et Herbert, malgré une grosse frayeur.
Leur début de match a été idyllique, puissant, précis, débordant d'envie et d'énergie. L'Angevin et l'Alsacien ont tout fait mieux que leurs adversaires, pourtant eux aussi de très bons spécialistes du double. Ivan Dodig et Mate Pavic dépassés par la qualité des services, des retours, des passings, des volées, des tout récents finalistes du Masters de Londres. Résultat 6-4, 6-4 et 2-0 en leur faveur dans le troisième set et 4 balles de double break, quasiment des balles de match. Ils n'ont pu les concrétiser, ce qui a eu pour effet de les crisper, de relancer dans le même temps Dodic et Pavic, les Croates qui empochaient 5 jeux d'affilée, le 7-6-3. Le suspense s'était donc relancé, la bagarre s'installait véritablement sur le court et dans les tribunes entre les supporters tricolores et les Croates, particulièrement bouillant, une vraie belle ambiance de Coupe Davis que l'on regrettera évidemment l'an prochain avec le changement de formule. Le quatrième set allait être très serré, les Bleus arrivant finalement à retrouver leurs esprits et leur tennis pour le remporter au jeu décisif 7-3. La victoire donc est l'espoir qui revient dans le camp français. Il faut dire que les duettistes étaient particulièrement déterminés à l'idée de relancer leur équipe. Pierre-Hugues Herbert.
C'est vrai que c'était la première fois pour nous qu'on était mené 2-0 après le vendredi et qu'on devait rentrer sur un match où le destin était scellé si on perdait. C'est-à-dire que on n'avait pas le droit à l'erreur. Après, on sait que le double, c'est un point assez spécial. C'est le samedi. C'est un point qui est crucial. On connaît notre rôle à nous, c'est de le ramener, celui-là, qu'importe le score. Et c'est vrai qu'on s'est, on avait peut-être un objectif un petit peu plus profond que ramener le point. C'était redonner le sourire au mec, se donner une chance aussi pour les mecs de simple de d'aller faire l'exploit le dimanche. On voulait absolument pas que ça se termine aujourd'hui, et aussi pour le public, essayer de leur ramener pour le premier break du week-end et le premier point. On leur devait ça, et je pense que c'est aussi ça qui nous a motivés, on va dire, encore plus que nos simples objectifs personnels.
L'équipe de France tenante du titre a donc évité une déroute, une défaite 3-0 sur son sol pour la toute dernière finale de l'histoire de la Coupe Davis dans son format actuel, d'où le soulagement du capitaine tricolore en larmes avant le match au moment de la Marseillaise. Écoutez Yannick Noah.
2-1 c'est mieux, parce que oui, la nuit dernière j'ai pas vraiment bien dormi. Bien entendu, il y a des moments où je me suis dit 3-0 ça aurait été dur. Dur pour le public, dur pour nous, dur pour cette dernière finale de tous ces gens qui attendent depuis tellement longtemps, qui ont des places pour demain, se retrouver le dernier jour sans match à enjeu, c'était déjà très difficile, ça c'était vraiment le cauchemar. Et du coup, ils nous ont donné vraiment beaucoup d'air, en jouant bien, en se bagarrant, avec forcément la petite tension de fin de match habituelle, parce que sinon ça serait trop cool. Et ce public pour la première fois a pu vraiment s'exprimer, s'éclater, ça fait du bien. Donc ça nous recharge, on est plein d'énergie. On est prêt à y aller demain.
Et voilà donc les Bleus, Eric, qui sont revenus à 2-1, mais le chemin vers le doublé reste encore bien long.
Et oui, demain, ils devront gagner les deux simples pour conserver le saladier d'argent et signer un doublé inédit pour la France depuis 1932. Loin d'être évident au vu de la prestation de haut vol des deux joueurs croates hier, Marin Cilic et Borna Ćorić. En plus, Joe Wilfried Tsonga s'est blessé aux adducteurs, il est toujours incertain pour demain. Jérémy Chardy a été touché moralement par sa sévère défaite contre Coric. Reste Lucas Pouille qui pourrait être lancé face à Marin Cilic, le nordiste en manque de confiance et de résultats en cette fin de saison. Bref, c'est mission quasi impossible, mais Nicolas Mahut veut y croire.
Ce qui compte, c'est que nous, en tout cas, on y croit, et très honnêtement, je crois qu'on a la folie pour le faire. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore joué du week-end. Je pense notamment à Lucas et qui a des fourmis dans les jambes, et je suis convaincu que si demain il joue, et il réalisera un match immense. Et je sais pas encore, Yannick a pas dévoilé ses plans, on sait pas qui va jouer, mais imaginons qu'on arrive à se retrouver à 2-2. À 2-2, il n'y a plus vraiment de tennis, de favoris dans une ambiance comme celle-ci. Tout peut se passer et il faut de la folie, je crois qu'on l'a dans l'équipe.
Et en cas de score de 2-2, Yannick Noah pourrait lancer soit Tsonga s'il peut jouer, soit Pierre Hugerbert face à Borna Ćorić. Renverser le score sera en tout cas historique, car une seule fois en finale, une équipe menée 2-0 a réussi à s'imposer. C'était l'Australie en 1939.
Merci Eric Mamrut, et on vous retrouve évidemment ce dimanche pour Mondial Sport et pour le verdict de cette finale serrée entre la France et la Croatie. Un nouveau détour par le Stade de France, où le 15 de France a maintenant quelques 17 minutes de la fin du temps réglementaire. Reste derrière les Fidji, Cédric De Oliveira.
Oui, toujours 18-14, Christophe, 18-14 pour les Fidji. Les Fidji qui en plus sont à peu près 5 mètres de la ligne d'embut des Français. Les Fidji qui vont pouvoir bénéficier d'une mêlée qu'ils vont eux-mêmes introduire. Donc c'est un avantage en rugby. Les Fidji qui sont donc à 5 mètres, les deux équipes qui s'apprêtent à pousser l'une et l'autre. Attention là, c'est maintenant les trois quarts centres fidjiens qui ont le ballon. On est toujours à quelques mètres là de la ligne d'embut française. Le 15 de France qui souffre, on le rappelle, attention, toujours les Fidjiens qui viennent, insistent là sur cette défense française. Pour l'instant, elle tient le choc, mais que c'est dur pour cette équipe de France. Qui, je vous l'ai dit, a vécu une première période assez compliquée, mais là, alors que là, attention, les Fidjiens qui se rapprochent encore une fois, la passe est manquée de Sérémy Radradra, et heureusement pour le 15 de France là qui décide de relancer rapidement, mais Camille Lopez est poussé en touche. Les Fidjiens qui font preuve un petit peu de maladresse, et heureusement pour le 15 de France, puisque l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Pour l'instant donc, ils mènent 18-14 et il reste un peu plus d'un quart d'heure à ce 15 de France pour éviter une humiliante défaite, puisque je vous rappelle que les Fidji n'ont jamais battu le 15 de France dans leur histoire.
Voilà, on se tient au courant, puisque normalement le résultat de cette rencontre devrait tomber avant la fin de Mondial Sport. Allez, place maintenant au football et nous commençons par la Liga avec un match au sommet ce soir entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Pierre Chaperon est au Wanda Metropolitano. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
C'est accroché entre l'Atlético et le Barça, comment ça se passe ?
Oui, il reste là 10 secondes à jouer, un partout entre les deux équipes. Il aura fallu attendre la 78e minute et ce but sur corner de Diego Costa. Une tête au deuxième poteau qui est venue tromper Ter Stegen et qui surtout a fait se soulever le Metropolitano. Et le match vient de se terminer, score final un partout. Je vous raconte quand même le but qui de l'égalisation du Barça. Elle est signée Dembélé, marqué à la 89e sur une belle contre-attaque barcelonaise. Le reste, si on aime la tactique, le foot en bloc, on aime ce genre de match. Et ben, on était servi ce soir dans la froideur du Wanda Metropolitano. Le froid est bien là du côté de Madrid, pas de jaloux. À noter les retours côté barcelonais du français originaire de Yaoundé, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez, Thomas Lemar et Diego Costa de retour lui aussi du côté de l'Atlético. Alors, est-ce que c'est la compo très offensive proposée par le Barça qui a fait que le match était très fermé puisque le milieu du Barça était composé de Vidal, Sergi Roberto, Arthur, Busquets, bien entendu il y a eu des actions, des coups francs qui ne donnent rien, des frappes qui ne donnent rien, bref c'était pas le match de l'année, mais c'était quand même un très beau match.
Alors il y a le Real Madrid qui un peu plus tôt dans la journée a pris une claque à Eibar, défaite 3-0 pour le Real.
Ah oui, carrément, c'est une honte selon Marca. Sans Lopetegui, qui va être viré maintenant, se demande très moqueur le quotidien numéro 1 en Espagne. C'est très simple, ce match a révélé les gros problèmes de cette équipe depuis le début de l'année, à savoir un manque d'envie, une défense totalement dépassée par l'impact physique mis par son adversaire et un Gareth Bale loin d'être à un niveau suffisant, qualifié même d'arnaque par Marca. Bref, c'est un désastre général que l'on a vu au Pays Basque cet après-midi. Liton dans As, qui n'a vu que deux joueurs à peu près au niveau, Courtois et Benzema, le gardien belge qui a sauvé à plusieurs reprises la maison Real. C'est la première défaite de Santiago Solari depuis son arrivée comme entraîneur du club. Pas très content de la prestation de ses joueurs, l'Argentin n'a pas trouvé ses hommes à la hauteur. Sergio Ramos, très mauvais face à Eibar, a assumé cette défaite. C'est un problème de comportement, disait-il après la rencontre.
Oui, Sergio Ramos qui a été mis en cause dans l'affaire des Football Leaks, enfin dans les révélations des Football Leaks plus exactement. Il aurait été contrôlé positif, notamment un contrôle antidopage le jour de la finale de la dernière Ligue des Champions.
Oui, et ces révélations qui font la une des journaux sportifs ici, même si par exemple dans Marca il faut attendre la page 20 hein, pour trouver une double page très factuelle. Bref, le capitaine du Real et de la sélection a répondu à ces accusations.
Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai eu quelques 250, 300 contrôles antidopage. Et je n'en ai raté aucun, bien au contraire. Je les ai toujours réussis. Il n'y a jamais eu d'irrégularité. Nous savions depuis un mois et demi que l'information allait sortir. Mais comme nous connaissons la vérité, nous sommes calmes et nous n'avons pas peur. Bien entendu, nous allons prendre des mesures parce que c'est une affaire assez grave. Ils ont essayé de salir mon nom, ma carrière, mon statut.
Défendu par son club et l'UEFA, Sergio Ramos envisage même d'attaquer ceux qui ont diffusé l'information.
Merci Pierre Chaperon. En Allemagne, eh bien, ce sont les affaires du Bayern qui ne s'arrangent pas. Match nul 3 partout contre Düsseldorf aujourd'hui. Düsseldorf, une équipe de bas de tableau. Le scénario est rageant. Les Bavarois à domicile ont mené 2-0 puis 3-1 avec un doublé de Müller avant de se faire rejoindre. Le résultat fragilise encore un peu plus l'entraîneur Niko Kovac. Au classement, le Bayern est maintenant 5e à 9 points du Borussia Dortmund. Dortmund vainqueur 2-1 à Mayence alors que l'Eintracht Francfort s'imposait 3-1 à Augsbourg. Direction maintenant l'Angleterre où nous attend Tom Williams. Bonsoir Tom.
Bonsoir Christophe.
Alors petit événement dans cette saison en Angleterre. Pour la première fois, Chelsea a été battu en Premier League. Ça s'est passé à Wembley à l'occasion de l'affiche la plus alléchante de cette 13e journée. Les Blues ont été battus par Tottenham.
Oui, un résultat assez surprenant dans le derby londonien avec la victoire 3-1 de Tottenham face à une équipe de Chelsea qui a été totalement dépassé défensivement dès le coup d'envoi. Eli Ali a ouvert le score pour Tottenham à la 8e minute avec un but de la tête suite à un coup franc de Christian Eriksen. C'était un 6e but en 5 matchs contre Chelsea pour le milieu de terrain de l'Angleterre. Puis c'était au tour de Harry Kane, icône des Spurs, qui a pris le gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, à contre-pied avec un tir de 25 mètres. On a vu un vrai chef-d'œuvre en deuxième mi-temps de la part de Son Heung-min, l'ailier sud-coréen des Spurs, qui a déposé Jorginho et David Luiz avec une roche sur le côté droit avant de battre Arrizabalaga avec son pied gauche. Chelsea a répondu à 5 minutes à la fin avec un but de la tête du Français Olivier Giroud, qui a devancé l'Ivoirien Serge Aurier dans les airs, mais c'était beaucoup trop tard. C'était une première défaite en 13 matchs de championnat pour Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, qui perd la troisième place au profit de Tottenham.
Alors, devant justement ce duo Tottenham-Chelsea, eh bien, il y a toujours Liverpool. Liverpool qui prépare son rendez-vous européen de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Ce sera mercredi et Liverpool a bien préparé ce rendez-vous.
Oui, Liverpool seront à Paris la semaine prochaine pour un match capital en Ligue des Champions. Et les hommes de Jürgen Klopp ont battu Watford 3-0 avec leur star africaine à la clé. L'Égyptien Mo Salah a ouvert le score dans la 67e minute avec son 9e but de la saison après un centre du gauche du Sénégalais Sadio Mané. Après un joli coup franc du jeune défenseur Trent Alexander-Arnold, un tir de Mané en fin du match a provoqué le 3e but pour Roberto Firmino. Liverpool reste 2e à 2 points du leader Manchester City, qui a gagné 4-0 à West Ham. Le match au London Stadium était déjà plié à la mi-temps grâce au but de David Silva, de Raheem Sterling et de Leroy Sané, qui a ajouté un 4e but dans le temps additionnel. Ça fait 8 victoires de suite pour City, toutes compétitions confondues.
Tom, on va dire un mot de Manchester United qui est frustré ce samedi parce que il s'éloigne des places de qualificatives à la Ligue des Champions.
Oui, effectivement, United se trouve maintenant à 7 points du top 4 après un 0-0 frustrant contre Crystal Palace à Old Trafford. United a créé quelques occasions en fin de match, mais c'était sans compter sur Wayne Hennessy, le gardien de Palace, qui a produit une série d'arrêts impressionnants. José Mourinho, l'entraîneur de United, a dit que son équipe a joué avec le cerveau, mais pas avec le cœur.
Merci Tom. Tom Williams en direct de Londres. En Italie, un nouveau but de Cristiano Ronaldo, un autre de Mandzukic. Et la Juventus de Turin a tranquillement battu la Spal, un club promu cette saison, 2-0 lors de cette 13e journée de Serie A. La Juve compte 9 points d'avance sur Naples qui jouera ce dimanche et sur l'Inter de Milan. L'Inter qui tout à l'heure, il y a quelques minutes, a battu Frosinone 3-0 avec un super match du Sénégalais Keita Baldé, 2 buts et une passe décisive pour lui. Et puis en France, en Ligue 1, ça fait 14 pour le PSG, une 14e victoire en 14 journées, nouveau record, mais c'est une courte victoire, 1-0 contre Toulouse, but d'Edinson Cavani dans un match marqué par les absences de Neymar et Mbappé, blessés, et le retour de Dani Alves, le Brésilien qui lui s'était blessé il y a 6 mois en finale de la Coupe de France, ce qui lui avait notamment fait manquer la Coupe du Monde. Le PSG qui, on le disait tout à l'heure avec Tom, accueille Liverpool en Ligue des champions la semaine prochaine. Alves, d'ailleurs, à ce sujet, s'est dit sûr que Neymar jouerait contre Liverpool. Et c'est une indication. On ajoutera à ces résultats, eh bien, la première victoire pour Monaco depuis l'arrivée au poste d'entraîneur de Thierry Henry. Monaco s'est imposé sur la pelouse de Caen 1-0. On continue avec le foot en Afrique et l'on accueille Eric Chorin. Bonjour Eric.
Bonjour Christophe.
C'est la Coupe de la Confédération et la finale aller qui a lieu demain à Casablanca. Une finale qui opposera les Marocains du Raja de Casablanca aux Congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux clubs-là courent depuis longtemps maintenant après un trophée continental.
Oh là oui Christophe, c'est aussi étonnant que cela puisse paraître alors que cette finale oppose deux clubs prestigieux, hein, le Raja, 11 fois champion du Maroc, et le V Club, 14 fois champion de RDC. Eh bien, il n'en est pas de même sur la scène continentale, en tout cas depuis bien longtemps, car les les Rajaouis ont quand même remporté 3 fois la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. 3 clubs seulement ont fait mieux, mais c'était au siècle dernier, en 1989, 1997 et 1999. Depuis, plus rien. Ah si, oui, la Coupe de la CAF en 2003. Cela fait donc 15 ans qu'on attend un nouveau trophée continental du côté du Raja, alors que l'Ouidad, l'autre grand club de Casa, a été couronné en Ligue des Champions l'an dernier. L'entraîneur espagnol du Raja, Juan Carlos Garrido, est très conscient de cette longue attente. Il l'a confié à Hakim Tamim en conférence de presse et il a un mot clé pour en parler, Christophe. Je vous laisse deviner lequel.
Pour tous les Rajaouis, c'est un match très spécial. Jouer pour gagner une compétition internationale, toujours, c'est un match très, très spécial. C'est un match très spécial et le match spécial, toujours, se doit jouer d'une manière spéciale. Dans le football, toujours, il y a le ballon, la possession, la pression, le ballon arrêté. Mais un match comme ça, aussi, il y a le courage personnel de chaque personne, le courage de toute l'équipe, parce que quand tu peux gagner une compétition internationale, toujours tu dois donner le maximum. C'est un match que nous connaissons très bien l'adversaire connaît très bien aussi notre équipe. Je pense que l'adversaire, il y a une équipe avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de bonnes qualités techniques. Il y a un milieu de terrain magnifique, très bon allié, très bon attaquant, un défenseur magnifique, un bon gardien. C'est une très bonne équipe.
Une grande équipe, une très bonne équipe, une équipe spéciale, aurait pu dire Juan Carlos Garrido, que le Raja connaît bien pour l'avoir rencontré 2 fois en poule, Christophe. Et c'est Vita qui s'en était le mieux sorti en ramenant un 0-0 de Casa avant de s'imposer 2-0 à Kinshasa.
Alors on l'a dit, le V-Club patiente lui aussi depuis longtemps dans ce qu'on pourrait appeler l'antichambre de la salle des trophées, continentaux en tout cas.
C'est la course à l'échalote hein, et c'est pire encore que pour le Raja, Christophe. Cela fait 45 ans que les Kinshasa n'ont pas décroché un titre sur la scène africaine. Le seul d'ailleurs qui figure à leur palmarès, c'était la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions en 1973. Vous aviez 5 ans, Christophe. Non, mais il y a quand même eu 2 finales depuis hein, dans cette même compétition. Pour le club, toutes 2 perdues malheureusement face à des clubs algériens, la Jeunesse sportive de Kabylie en 1981 et surtout, beaucoup plus récemment, l'Entente sportive de Sétif en 2014. Un souvenir encore douloureux pour Vita, car les joueurs de Florent Ibengué, qui étaient déjà là, n'avaient perdu ni à l'aller ni au retour. 2 matchs nuls, 2-2, 1 partout, mais les 2 buts encaissés au stade des Martyrs à l'aller avaient fait la différence. Se souvient encore le gardien camerounais du V-Club, Nelson Lukong Bongaman.
La première finale, on était commencé à domicile, on a fini à l'extérieur. On n'avait pas perdu aucun match, mais on n'a pas eu la coupe. Donc ça dit qu'on a eu le faux pas à domicile chez nous. Là, on a fait 2-2. Donc ça, c'était une deuxième finale. On commence à l'extérieur pour terminer à domicile. Donc je pense que le club a toute la chance de prendre cette coupe. Je pense qu'on a fait un très bon parcours dans cette compétition. Depuis la quart de finale, on a fait un très bon parcours pour arriver en finale. Là, on n'a pas perdu aucun match. Et tout le monde est en confiance. Tout le monde est vraiment en confiance parce qu'on sait que c'était un trophée qui manquait dans cette équipe depuis longtemps, depuis que V-Club a pris cette trophée, ça fait longtemps, donc mes coéquipiers qui sont là-bas, tout le monde est conscient et on a vraiment envie de prendre cette coupe. Bon, je travaille très dur pour chercher à gagner ce titre qui me manque dans mon carrière depuis longtemps. Je sais que oui, tous les V-Club, bien cette coupe aussi, les manque aussi en tant que nous les joueurs. Je les demande juste de venir nous soutenir au match retour pour chercher à prendre cette coupe.
Un match retour que Kinshasa accueillera dans une semaine, Christophe. Mais en attendant, il faut déjà jouer hein, le match aller demain à Casa. C'est à 19h, temps universel.
Alors ne vous éloignez pas, Eric. On revient vers vous dans 1 minute. Mais on fait un crochet au Stade de France parce que là-bas, il reste 5-6 minutes dans le temps réglementaire. Et dans ce dernier test match de la série, eh bien la France, Cédric de Oliveira, lutte pour repasser devant les Fidji. Et c'est pas facile.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas facile. La France qui insiste là depuis une dizaine de minutes dans le camp des Fidjiens, on se rapproche, on est à 3 mètres maintenant là de l'embut des joueurs du Pacifique, alors que là on se rapproche encore avec Mathieu Bastaro qui a le ballon, là on est vraiment à quelques centimètres, là il la voit les Français, la ligne, alors que là le môle s'écroule mais non, ça ne suffit pas, attention, on va revenir à une faute côté français, l'arbitre du match, Mathieu Carlet, qui annonce bien une pénalité côté français. L'ouvreur Camille Lopez qui va certainement aller chercher la touche pour insister, puisque les Français ont toujours 4 points de retard et qu'il faut absolument marquer un essai pour repasser devant Christophe. Voilà les Français qui insistent là depuis une dizaine de minutes. Ouais. Et qui n'ont plus que 5 minutes maintenant pour revenir dans ce match.
Ouais, où les Fidji sont toujours devant, 18 points à 14. Alors Eric Chorin, le foot toujours en Afrique avec vous et avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Ghana.
Oui, une CAN 2018 qui progresse à grands pas. Le premier tour s'est achevé aujourd'hui avec les derniers matchs du groupe B et deux équipes ont rejoint, les Camerounaises et les Maliennes qualifiées hier. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir Christophe. La CAN féminine, vous savez quoi ? C'est spécial.
C'est spécial et c'est au Ghana avec vous Olivier. Vous allez tout simplement nous donner les affiches des demi-finales de la compétition.
Par ordre d'apparition, mardi, messieurs, Nigeria, Cameroun, puis Afrique du Sud, Mali. Trois habitués en somme, hein. Le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, trois sélections qui étaient dans le dernier carré déjà des trois dernières éditions de la CAN. Les Nigérianes sont doubles tenantes du titre, elles ont remporté 8 fois la compétition en 10 éditions. Les Camerounaises sont doubles vice-championnes en titre. Pour accompagner ce trio, les petites nouvelles, la surprise depuis vendredi, le Mali, les aigles féminines qui atteignent les demi-finales, elles pour la première fois en 7 participations, après avoir dominé et éliminé en quelque sorte le Ghana, pays hôte, perdu face aux Lions camerounaises. Les Maliennes sont passées vendredi par un trou de souris en battant les Algériennes qui n'avaient pas marqué un but jusque-là dans la compétition. Elles les ont battues 3-2 sur un pénalty dans les ultimes secondes. Elles retrouveront donc mardi à Cape Coast les Sud-Africaines parfaitement préparées. Elles ont dominé le groupe B, prenant notamment le meilleur sur les Nigérianes en ouverture, pulvérisant les Équato-Guinéennes, bon, comme tout le monde, hein, 18 buts encaissés en 3 match pour les Équato-Guinéennes, et enfin en contrôlant ce samedi les Zambiennes à Accra, un partout. Alors la sélectionneur Désirée Ellis nous dit que oui, ce n'était pas un grand match, mais ça n'est après tout qu'une seule étape de franchie, il fallait déjà la franchir, on l'écoute.
Juste une étape, oui. Nous prenons match après match. Aujourd'hui, c'était très difficile, comme toujours face à la Zambie. On était assez contente de voir arriver la fin du match, car cela aurait pu tourner en faveur des Zambiennes. Donc, heureuse du résultat, mais pas de la manière, car cette équipe peut faire beaucoup mieux. Et les filles le savent au fond d'elles-mêmes. Encore un match à gagner pour atteindre notre premier objectif, aller à la Coupe du Monde. Nous allons rentrer à Cape Coast, nous reposer et nous préparer pour cette demi-finale.
Rest up and make sure that we're ready for the next game.
Désirée Ellis, la sélectionneuse de l'Afrique du Sud qui rencontrera donc le Mali mardi à Cape Coast, mais la demi-choc aura lieu à Accra un peu plus tôt sous vos yeux, Olivier Pron.
Et effectivement, l'autre demi-finale, on rappelle que c'est important, hein, parce que les trois premiers de cette CAN, les trois sélections, seront qualifiées pour la Coupe du Monde en juin. Hein. Donc l'autre demi-finale, elle promet un formidable affrontement entre les deux meilleures sélections féminines africaines de ces dernières années, une affiche de la finale, tout simplement, des deux dernières CAN, Nigeria-Cameroun. Les Nigérianes ont battu cet après-midi les Équato-Guinéennes en entraînement, hein, 6-0. Elles sont attendues de pied ferme à Accra par des Lions revanchardes. Là encore, pour les Lions, l'objectif n'est pas encore atteint. Écoutez, la double buteuse depuis le début de la compétition, Adjaran Schutz.
Bien sûr, premier contrat rempli, mais l'objectif n'est pas encore atteint. On va continuer à pousser pour atteindre notre objectif.
C'est quoi l'objectif ?
De remporter, bien sûr.
Après deux finales perdues, cette fois, il n'y a que la gagne qui compte ?
Après deux finales perdues, ça fait vraiment mal. Et cette fois-ci, on est venu pour remporter. On espère qu'on va arriver à cet objectif. Bien sûr, on respecte l'adversaire. Mais nous avons travaillé pour ça, on n'a pas peur des adversaires, peu importe qui on va croiser, on va jouer.
Ouais. Vous êtes confiante ?
Bien sûr, j'ai confiance à toutes mes coéquipières. Nous allons jouer, on a travaillé longtemps pour ça, on s'est préparé, j'ai confiance à toute l'équipe et je crois vraiment à nous.
Et puis il y a une Coupe du Monde au bout.
Vraiment, ça va faire plaisir de participer à une Coupe du Monde aussi, donc nous jouons pour ça.
Évidemment que ça lui ferait plaisir de participer à une Coupe du Monde. Elles sont 4 équipes pour 3 places. Et après, il faudra se qualifier pour la finale, jouer également la finale. On a deux belles demi, soyez au rendez-vous mardi. Hein.
Merci Olivier, on y sera. Vous avez peut-être encore le temps d'aller assister aux All Africa Music Awards qui ont également lieu à Accra. Je sais que vous avez votre billet.
Et on retrouvera Olivier pour parler de ces demi-finales. Bah tiens, dans Radio Foot, dès lundi, en direct du Ghana. Alors, on se résume avec ce nul ce soir entre l'Atlético Madrid et Barcelone. C'est terminé. En revanche, le test match de rugby, c'est pas terminé. Et les Français sont menés chez eux par les Fidji, 18 à 14. Cédric de Oliveira, dans un instant, dans notre prochaine édition pour le résultat final. C'est terminé pour Mondial Sport. Merci à vous, messieurs, et à demain.